Chers frères et sœurs en Christ, nous avons évidemment besoin de persévérance. C'est ainsi que nous verrons les promesses de la parole de Dieu s'accomplir pour nous, que nous verrons les exaucements à nos prières et que finalement l'entrée dans le ciel de gloire nous sera pleinement accordée. Mais la persévérance n'est pas toujours facile. Ce qui nous sera d'un immense secours sera d'avoir en même temps un cœur reconnaissant et plein de gratitude. C'est de nous souvenir avec joie des bonnes et précieuses expériences que le Seigneur nous a fait réaliser. Oui, quel soutien pour persévérer. Et nous voulons d'ailleurs maintenant, en introduction de notre prédication, continuer à tirer des analogies entre la nature, ce que le Seigneur nous y montre, d'une part, et la prière, de l'autre. Et nous voulons spécialement parler aujourd'hui de la prière d'action de grâce. Car que de raisons nous avons de louer Dieu sans cesse. Que de choses de grande valeur nous a-t-il confiées ? Notre corps si merveilleux, notre intelligence, nos yeux, nos mains, nos pieds, la santé, la nourriture, le vêtement, le logement, et puis nos parents, nos conducteurs spirituels, sa parole infiniment précieuse, son salut, sa présence, ses exaucements, les choses glorieuses qui nous préparent pour l'avenir, etc., etc. Que de grâce de Dieu nous prenons comme des choses toutes naturelles, sans même avoir l'idée de le remercier du fond du cœur. Tout est grâce. Et si nous prenions à cœur de louer Dieu pour toutes les choses agréables et bonnes qu'il nous donne à chaque instant, nous aurions de quoi le louer sans cesse. Comme nous serions alors plus heureux et comme nous ferions plus envie aux autres. Regardez comme les oiseaux chantent en levant presque toujours la tête vers le ciel. Voyez quelle ardeur ils mettent dans leurs chants vibrants et gais. Il en est de même pour les grillons, les sauterelles, etc., qui tous à leur manière louent et célèbrent le Créateur. C'est aux premières heures de l'aurore que les chants d'oiseaux sont les plus nombreux et les plus vibrants. Avant de quitter le perchoir où ils ont passé la nuit, avant de songer à prendre leur petit déjeuner, ils chantent et célèbrent sans arrêt pendant au moins une demi-heure, quand ce n'est plus, celui qui fait lever une nouvelle fois sur eux son soleil vivifiant. Savons-nous aussi employer les premières heures du jour, comme l'ont fait les premiers hommes de la Bible et le Seigneur lui-même, pour rencontrer Dieu et l'adorer? Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pendant la journée, c'est surtout quand le soleil brille que les oiseaux chantent, quand le ciel se couvre de nuages, lorsque le vent s'élève, que la pluie tombe, les chants diminuent de beaucoup. Souvent, ils s'arrêtent complètement. Les versets d'Ésaïe 44, verset 22, et 59, versets 1 et 2, nous montre que nos péchés sont comme des nuages qui nous séparent de Dieu. Si la louange ne remplit plus nos cœurs, si nous célébrons si peu le Seigneur et suivons si mal l'exemple des oiseaux, ne serait-ce pas peut-être parce que nous avons laissé des nuages noirs obscurcir notre ciel, parce que nous ne marchons plus dans la pleine lumière des rayons du soleil divin. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 7, il est écrit que c'est seulement lorsque nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, que nous sommes en communion avec lui et que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Examinons-nous nous-mêmes devant Dieu avec droiture et vérité. Renonçons à tout ce qui pourrait être un nuage dans nos cœurs. Mais si les oiseaux chantent surtout le matin de bonne heure et par le soleil, c'est seulement au printemps et au début de l'été, c'est-à-dire pendant la période des nids. Plus tard, ils deviennent silencieux et ne poussent plus qu'ici et là un petit cri, une vague chanson. Le Seigneur Jésus parlait des fruits que nous devons porter. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples, est-il écrit dans Jean 15, verset 8. Et au moment de quitter ces mêmes disciples, il leur disait « Allez-vous-en par le monde, par tout le monde, prêchez l'évangile à toute créature. » C'est dans Marc, chapitre 16, verset 15. Ne pas porter de fruits, c'est encourir le jugement du figuier stérile, dont il est question dans Matthieu 21, verset 19. Celui du serviteur qui a caché son talent dans la terre, dont il est parlé dans Matthieu 25, versets 24 à 30, c'est risquer d'être retranché, comme il est dit dans Jean chapitre 15 et verset 2. L'apôtre Paul appelait ses disciples ses enfants en Christ, ou ses enfants spirituels. Répandre la bonne nouvelle du salut, amener les âmes à Christ, c'est engendrer de nouveaux enfants de Dieu. C'est donc se reproduire, se multiplier, c'est porter du fruit spirituellement parlant. Un prédicateur a dit un jour, un chrétien triste est un triste chrétien. C'est vrai que s'il y a bien des chrétiens sombres et mécontents qui ne reflètent pas la joie du salut, qui ne connaissent pas la louange comme les oiseaux, n'est-ce pas tout simplement parce qu'ils vivent égoïstement, tournant autour d'eux-mêmes, ne pensant qu'à leurs propres intérêts, sans penser à rendre témoignage autour d'eux du glorieux salut qu'ils connaissent. Pour eux, c'est l'hiver, au lieu que cela devrait être le printemps. Mettons-nous à l'œuvre, parlons du Sauveur, répandons sa parole, et les effets du printemps se feront ressentir, et la louange remplira notre cœur, parce qu'il n'y a pas de plus grande joie ici-bas que de voir des âmes se tourner résolument vers Dieu et entrer dans le chemin qui mène à la vie. Mais ce n'est pas tout. La Bible nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » C'est dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 18. Il n'en est plus question seulement là de choses bonnes et plaisantes, mais aussi des choses désagréables, des contrariétés, des épreuves, des moqueries, des difficultés de la vie. C'est Jacques qui précise en disant « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés » dans Jacques 1, verset 2. L'apôtre Pierre ajoute « Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Un peu plus loin, « Réjouissez-vous, au contraire. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Tout cela, c'est dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 16. Et le Seigneur lui-même avait dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12. Ici, direz-vous, les oiseaux n'ont plus rien à nous apprendre. Ils chantent parce qu'ils peuvent voler, parce qu'au printemps, la nature leur offre à profusion tout ce qu'ils peuvent souhaiter, et c'est tout. Eh bien, détrompez-vous. Voici un témoignage. Celui de ce chrétien qui a entendu un jour, trop tard, les appels d'un couple de merles qui est arrivé sur le lieu quand le crime était consommé. Toute la nichée venait d'être dévorée par un chat. Et tandis qu'il examinait avec autant de chagrin que les parents, le nid démoli et les restes informes des pauvres oisillons, quel ne fut pas son étonnement de voir soudain le père affligé voler sur son perchoir favori et là, la tête levée vers le ciel, faire entendre sa plus belle symphonie. Et il ne put s'empêcher de penser alors aux deux si belles réponses de Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et encore, quoi ? Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Job chapitre 1, verset 21, ainsi que chapitre 2, au verset 10. Ne pensez pas que le chant de ce merle soit la preuve d'une grande insouciance. Bien au contraire, les nombreux exemples que l'on trouve chez les oiseaux, de la fidélité des conjoints l'un vis-à-vis de l'autre, de l'amour maternel ou paternel poussé parfois jusqu'à la mort, sont là pour prouver le contraire et nous donner, à nous humains, une grande leçon. Certaines personnes, pensant faire plaisir à leur cher canari, suspendent sa cage hors de la fenêtre. Quel supplice pour le prisonnier ! Les autres oiseaux sont là, dans le verger, dans la rue, ils s'approchent de la cage, les hirondelles la frôlent de leur vol rapide. D'un nid situé sur le rebord du toit, de petits cris s'échappent à chaque visite du père ou de la mère. Et tout cela, le pauvre canari le voit, l'entend depuis son perchoir. Hélas, lui, il est privé des joies de la famille, privé de la liberté, enfermé derrière des barreaux de fer. Se révolte-t-il ? Pousse-t-il des cris perçants ? Essaye-t-il de frapper celle ou celui qui est cause de sa souffrance ? Mais non, il lui chante ses plus douces chansons. Il ne cesse de louer son Créateur. Il y a des exemples plus frappants encore. Au temps où la capture des oiseaux sauvages était autorisée, certains oiseleurs élevaient des rossignols et arrivaient à en faire des chanteurs hors ligne, en plaçant toujours avec des jeunes un exemplaire âgé, chantant très bien. Mais savez-vous quel était le secret principal de l'oiseau d'or ? Un secret dont on a honte de faire seulement la mention, pour que les oiseaux n'aient aucune distraction et chantent de jour comme de nuit, on leur crevait les yeux. Et voici qu'une fois privés non seulement des joies de la famille et de la liberté, mais encore de la lumière, ces oiseaux admirables chantaient encore mieux. Leur voix était plus vibrante, plus continue, plus modelée et plus parfaite. Une telle soumission à son sort ne fait-elle pas penser aux apôtres qui chantaient dans leur prison, aux martyrs qui entonnaient des cantiques sur le bûcher? Alors que de petits oiseaux nous donnent de tels exemples, oserons-nous encore nous plaindre et murmurer sans cesse? Et cela pour des choses que Dieu nous envoie pour notre bien, pour que nous participions à sa sainteté, comme il est marqué dans Hébreux 12, du verset 1 au verset 12. N'oublions pas que les Israélites ont passé 40 ans dans le désert et que toute une génération est morte sans voir le pays de la promesse à cause de ces murmures. Nombre 4, chapitre 14, versets 26 à 31. En terminant, faisons remarquer que la louange, la reconnaissance, le contentement d'esprit sont tout d'abord un sujet de gloire pour Dieu, comme il est dit par exemple dans le psaume 50 et au verset 23. Puis, de l'avis de la Bible et de tous les docteurs, un facteur très important et actif dans la question de la santé. Et là aussi, on pourrait citer, par exemple, Philippiens 4, verset 11, 1 Timothée 6, verset 6, au Proverbe chapitre 15, au verset 15. Et enfin, c'est un moyen de victoire infaillible dans l'épreuve et la tentation. Lorsque vous lisez l'histoire de Josaphat, dans 2 Chroniques chapitre 20, vous remarquez ce détail si précis du verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et ils furent battus. C'est vrai. Et quant à l'auteur du psaume, il disait « Je suis délivré de mes ennemis et je m'écris loué soit l'Éternel ». C'est pas ça qu'il disait. Mais bien plutôt « Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis ». C'est le psaume 18, verset 4. Et encore, dans le psaume 23, qu'on connaît si bien, relevons, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Oh, croyons donc que Dieu conduit nos vies et qu'il fait concourir toutes choses à notre plus grand bien, jusque dans les plus petits détails. Il a compté les cheveux de notre tête. Ne murmurons plus, ne nous révoltons plus. Louons-le sans cesse, louons-le pour ses bienfaits, louons-le pour ses épreuves. Louons-le pour le mépris des hommes, pour l'opprobre qui nous fait l'honneur de partager avec lui, et il en découlera la victoire pour nous et la bénédiction pour les autres. Rappelons-nous toujours l'exemple des oiseaux, spécialement du rossignol. Voilà, frères et sœurs, après cette introduction, nous voulons ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10 et au verset 23. Et nous voudrions parler d'une manière particulière de la persévérance. Hébreux chapitre 10 au verset 23, mais prions. Seigneur, nous te remercions en effet de toutes ces raisons de te bénir, de te rendre grâce, de te louer, de t'apporter notre gratitude, nos remerciements de manière suivie et continuelle. Et merci pour les grands bénéfices que tu veux nous en accorder aussi en conséquence. Merci notre Dieu pour ta parole qui est encore le soutien de nos âmes, qui est encore le pilier de notre foi. Et merci pour l'œuvre que tu veux accomplir en faveur de chacun par son moyen. Sois béni notre Dieu. Amen. Voilà, nous lisons donc dans Hébreux chapitre 10 et au verset 23, nous lirons seulement ce verset pour l'instant. Là il est écrit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. La plupart d'entre nous connaissent le grand chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, qui est le chapitre de la foi. Et c'est comme un diamant, dirais-je, paré de mille feux, qui resplendit là dans la parole de Dieu. Mais peut-être ne connaissez-vous pas ce qui précède et ce qui suit immédiatement ce chapitre. Il est question là de la persévérance. Et voici donc que le diamant de la foi est comme enchâssé sur la monture d'or de la persévérance. Pour prendre une autre image, le moteur de la foi est solidement fixé dans la carrosserie de la persévérance. À quoi sert un moteur de voiture tout seul ? On peut arriver à le faire tourner sur un banc, mais il ne fera pas avancer la voiture. De même, une carrosserie sans moteur. Mais les deux ensemble iront de l'avant. On parle souvent de la foi, moins souvent de la persévérance. C'est donc elle qui sera notre sujet principal de ce soir. Et nous pourrons considérer, Dieu voulant, successivement, ces sept passages qui concernent la persévérance qui sont contenus dans la fin de l'Épître aux Hébreux. Vous en avez quatre avant le chapitre 11 et 3 après le chapitre 11. Déjà notre verset, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui fait la promesse est fidèle. » Qui a fait la promesse, pardon, est fidèle. Ensuite, au verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Ensuite, un peu plus loin, au verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. » Dans le chapitre 10, au verset 38, il est écrit là, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Maintenant, ça, tout ça, c'était avant le chapitre 11. Maintenant, après, chapitre 12, verset 1er. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Au verset 3 du même chapitre, « Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Enfin, au chapitre 13, au verset 1er, « Persévérez dans l'amour fraternel. » Nous voulons donc étudier chacun de ces passages l'un après l'autre, et nous revenons au premier. « Retenir la profession de notre espérance, y persévérer », c'est dans le chapitre 10, au verset 23. Qu'est-ce que la profession de notre espérance? Vous avez d'autres traductions de la Bible qui nous permettent de comprendre cela d'une façon plus complète. Dans Darby, il est dit « Retenons la confession de notre espérance sans chanceler ». Notre traduction dit « Sans fléchir, continuons à affirmer notre espérance ». Et une autre encore de dire « Gardons indéfectible la confession de l'espérance. » Donc il s'agit d'une confession publique, d'une affirmation aux yeux et aux oreilles des hommes et des esprits, d'une profession de foi, d'un témoignage. Nous nous souvenons que le Seigneur a dit « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Et l'apôtre Paul rajoutait « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alors que faut-il confesser? Que faut-il professer? Eh bien, il nous faut professer le sang de Jésus, puissance de pardon et purification des anciens péchés, de nos anciens péchés. Il nous faut confesser Jésus donc comme notre sauveur. Et puis le nom de Jésus, puissance de guérison et de délivrance, avec les expériences que nous avons pu en faire. Et puis nous voulons confesser aussi l'amour de Jésus pour accueillir les perdus et les rejetés. Nous confessons aussi le retour du Seigneur Jésus pour nous emmener avec lui. Et nous confessons encore le tribunal de Jésus pour juger les vivants et les morts. Et nous pouvons confesser tout ceci au travers de notre témoignage. Et ce passage donc nous enseigne qu'il faut tous, il nous faut tous, persévérer dans cette profession de notre espérance. Parfois, des chrétiens confessent le nom de Jésus au début de leur vie chrétienne et ne continuent pas dans la suite. Ils ne persévèrent pas. Et celui qui n'y persévère pas prend le risque, très important, de perdre la foi peu à peu. Il peut même perdre l'assurance du salut. Mais celui qui y persévère, celui-ci voit la suite de notre verset, c'est-à-dire que celui qui a fait la promesse est fidèle. Ça, c'est la suite du passage. Il voit ainsi Dieu l'accompagner fidèlement dans son témoignage. Il voit Dieu confirmer et soutenir son témoignage. Remarquez encore que ce passage ne s'adresse pas de manière spécifique à ceux qui ont un ministère d'évangélisation particulier. Il s'adresse à tous les chrétiens et montre combien chacun de nous a besoin de persévérer dans le témoignage. Parlons autour de nous. Distribuons des traités. Du porte-à-porte en ce moment est plus compliqué à faire, mais que Dieu nous donne de saisir les occasions de témoignages qui se présentent et que Dieu va mettre devant nous. Et utilisons un ou plusieurs des nombreux moyens de témoignage qui existent. Nous verrons plus encore que jusqu'à présent que celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Puis notre deuxième texte, c'est le chapitre 10 au verset 25 qui nous invite donc à persévérer dans l'assemblée. Vous avez là donc cette exhortation générale qui recouvre des exhortations plus précises. quand il a dit « veillons les uns sur les autres ». Exhortons-nous réciproquement, verset 24, verset 25. Et que disent d'autres traductions? Une autre traduction nous dit « ne désertez pas votre assemblée ». Et puis vous avez la transcription en parole vivante qui nous dit « ne prenons pas comme certains l'habitude de manquer nos réunions » et plus familièrement de faire l'église buissonnière. Andrew Murray, dit à propos de ce verset « le tabernacle s'appelait aussi tente d'assignation, c'est-à-dire tente de rassemblement, de rendez-vous. Il nous est aussi nécessaire de rencontrer nos frères que de nous approcher de notre Père Céleste. L'abandon des réunions est un dangereux symptôme, un symptôme de relâchement. Dieu désire bénir la communion fraternelle de ses rachetés, et cela si abondamment que lorsqu'ils sont ainsi réunis, ils soient ainsi enrichis de son amour et de sa présence en une mesure plus grande que ne le serait jamais chacun d'entre eux dans un culte solitaire. » Il y a donc cette nécessité, bien sûr, dans la circonstance actuelle que nous traversons, exceptionnelle, le Seigneur va pourvoir d'une autre façon. Il connaît ceux qui ont ce désir. Et avec le secours de Dieu, je pense que nous allons bientôt pouvoir nous retrouver d'une façon meilleure qu'aujourd'hui. Mais donc cette nécessité de persévérer dans l'Assemblée, non seulement dans une réunion, mais dans plusieurs, même dans toutes celles où il est possible de le faire, d'y persévérer en faisant attention aux autres, en veillant sur eux. Et la promesse qui est rattachée à la fin du verset, c'est d'être prêt au retour du Seigneur. Et puis, dans le chapitre 10, au verset 35 et 36, que je ne relis pas puisque nous l'avons lu tout à l'heure, vous avez la persévérance dans l'assurance. D'après le verset 36, le meilleur moyen de garder son assurance, c'est d'obéir, de faire la volonté de Dieu. Puisque nous lisons, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Mais de quelle assurance s'agit-il? Alors c'est l'assurance du salut, l'assurance de la réponse aux prières, l'assurance de la guérison et de la délivrance, l'assurance de la victoire sur les puissances du diable, sur les démons, du secours d'en haut toujours fidèle, l'assurance de l'enlèvement. Voilà les différents aspects de cette assurance. Et cette assurance vient et elle reste quand on fait la volonté de Dieu, qu'on y persévère. Nous avons un exemple parfait en Jésus qui a dit dans le même chapitre, verset 9, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Et comment faire la volonté de Dieu? Et le Seigneur dit au verset 5, « Tu m'as formé un corps. » Donc Jésus s'adressant au Père, « Tu m'as formé un corps. » Alors j'ai dit, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Si Jésus n'avait pas obéi dans son corps, il n'aurait pas fait la volonté de Dieu. Il n'aurait pas persévéré et n'aurait pas obtenu ce qui était promis. Il faut donc de même que nous persévérions dans l'obéissance du corps, que nous pouvons détailler un petit peu pêle-mêle. Vous avez l'obéissance des pieds et des jambes pour qu'ils portent l'évangile de paix, l'obéissance de nos bras et de nos mains pour les élever vers Dieu ou les tendre vers ceux qui sont dans le besoin, l'obéissance évidemment de nos pensées pour les orienter dans la volonté de Dieu, sa parole, voilà notre cerveau, l'obéissance de nos oreilles pour les détourner de ce qui n'édifie pas, les tourner vers la parole du Seigneur, l'obéissance dans notre bouche pour prononcer de bonnes paroles, pour rendre un bon témoignage auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu, l'obéissance dans notre tenue, eh oui, dans notre apparence extérieure, l'obéissance dans nos yeux, dans chaque partie de notre corps. C'est pourquoi dans Romains chapitre 12, verset 1er, nous lisons « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La véritable obéissance, c'est celle du corps, de l'âme et de l'esprit réunis, sans négliger aucune des parties. Et c'est elle qui nous permet, suivant notre texte de base, de persévérer dans l'assurance. Et puis voici maintenant notre quatrième point, la persévérance dans la foi. Nous sommes là dans le chapitre 10, verset 38 au verset 39. Vous avez ce passage qui revient, « Mon juste vivra par la foi ». Voilà un texte fondamental. Ce passage cité ici vient du prophète Habacuc, chapitre 2, verset 4. Vous le trouvez aussi dans Romains 1, verset 17, et encore dans Galates, chapitre 3, verset 11. Ce texte, « Mon juste vivra par la foi », est le texte central des Épîtres aux Romains et aux Galates. Il est aussi le centre de l'Épître aux Hébreux, parce que tout le chapitre 11 qui suit n'est qu'une grande illustration de cette petite phrase contenue à la fin du chapitre 10 « Mon juste vivra par la foi ». Le juste vivra par la foi, ça c'est le centre de notre vie chrétienne à tout moment. Ça a été valable pour Abraham, pour Jésus, pour tout croyant véritable en tout temps. Mais ici, plus que dans les autres passages parallèles, il est insisté sur la nécessité de la persévérance dans la foi. Une foi qui ne persévère pas, qui recule, qui revient en arrière, qui se retire, perd le titre de foi. Elle est inutile. Tenons donc ce que nous avons. Récupérons, s'il le faut, ce que nous avons perdu. Celui qui persévère dans la foi a la vie de Dieu. Il est de ceux en qui Dieu prend plaisir. Il sauve son âme. Et puis maintenant, nous passons après le chapitre 11. Et nous avons donc les deux premiers versets du chapitre 12 qui nous parlent de la persévérance dans la course chrétienne. Et là, je rappelle Darby aussi qui nous dit à ce sujet « Courons avec patience dans la course qui est devant nous ». Notre traduction dit encore « Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée ». Et une autre encore nous dit « Nous devons courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée ». Persévérance, patience, constance, endurance, plusieurs mots pour exprimer ce que Dieu attend de nous. Lorsque nous lisons ces deux versets, nous y trouvons sept enseignements concernant la bonne façon de courir cette course dans laquelle nous sommes tous engagés. En premier, c'est une course devant un public. Il est marqué puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. L'athlète qui court devant un public se surpasse. Il ne prend pas le petit train-train de l'entraînement. Il reconnaît que celui qui court en public est capable de performances bien plus grandes que quand il est seul. Souvenons-nous qu'il y a un grand public pour nous regarder courir dans la vie chrétienne, d'hommes, de démons, d'anges, et courons en conséquence. Et puis en deuxième, il nous faut courir sur un parcours qui a été désigné. En courant sur la piste, voilà. Dans la carrière qui nous est ouverte, est-il dit au verset premier. Et qu'une, dans sa parole vivante, nous dit même, traduit même, dans la piste tracée devant nous. Que dire d'un concurrent qui courrait au milieu des spectateurs, ou même qui ne courait pas exactement dans la trajectoire. Soit il perdrait, soit il serait disqualifié. Et puis, courir aussi en rejetant tout fardeau. Quelles seraient les chances d'un coureur portant un sac à dos? Aucune. Parfois, la victoire ou la défaite peuvent même tenir à un vêtement plus lourd qu'un autre de quelques dizaines de grammes. Rejetons les soucis du monde, les fardeaux de culpabilité, au pied de la croix de Jésus-Christ. Et puis, courir en ayant fait, en faisant quelque part, si j'ose m'exprimer ainsi, un régime. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Ah, ce qui enveloppe si facilement un coureur, ça peut être la graisse, on dit de quelqu'un qu'il est un peu enveloppé. Pour gagner la course, il faut faire un régime, pas forcément physique, mais certainement spirituel. Prenez garde comment vous nourrissez votre âme. Quelles sont vos lectures, vos occupations? Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Et puis le cinquième point, c'est de courir avec persévérance. Comme nous l'avons vu, endurance, constance, patience. Vous savez, dans une course, spécialement une course de fond, vous avez plusieurs parties. Vous avez le départ, bon, c'est plus facile, on n'est pas fatigué. On peut suivre un rythme rapide pendant un bon moment. On peut même peut-être se porter devant pour imprimer le rythme, si on a de l'assurance. Et puis à un moment arrive ce qu'on appelle le coup de barre. En général, c'est un petit peu après la mi-parcours. Et là, les jambes deviennent en coton. On a l'impression qu'on perd sa respiration. On a envie d'abandonner. On croit que les autres sont en meilleure forme. On veut relâcher le rythme. Et puis si on a tenu, malgré tout, il se produit ce qu'on appelle le second souffle. Alors on sent là qu'on approche de la fin de la course, on rassemble ses forces, on retrouve une énergie qu'on ne soupçonnait pas, puis on calcule son coup aussi. Alors vous avez les deux derniers tours, si vous êtes sur une piste, peut-être le dernier aussi, et là on jette ses dernières forces dans la bagarre, on veut tenir, ne pas se laisser dépasser, essayer de rattraper l'autre devant. On compte les quarts de tour qui restent et on balance ses dernières forces dans les 80 derniers mètres de ligne droite. Hein, voilà. Courir avec persévérance. Persévérer, ça veut dire aller jusqu'au bout, en sachant que seule détermination à toute épreuve est la garantie du succès. Hein, voilà. Nous nous sommes engagés à lutter et ne lâchons pas prise. Et puis, luttons et courons ainsi dans cette course qui est devant nous. Et puis, si j'en reviens à cette course, il nous faut courir aussi en ayant les regards sur le but. Et c'est pour ça qu'il est marqué « Ayant les regards sur Jésus ». C'est lui le but. C'est lui qu'il nous faut fixer. C'est lui qu'il nous faut atteindre. Si vous regardez ailleurs, ceux qui veulent vous prendre la victoire vont guetter l'inattention et le relâchement et vont saisir l'occasion de vous voler, de vous dépasser. Et voilà, et dans ces moments-là, ben ce sera trop tard après. Et puis enfin, une chose aussi, il faut se séparer des spectateurs oisifs. Ne pas suivre l'exemple de ceux qui nous regardent, mais il faut courir, même si eux ne le font pas, même s'il s'agit de chrétiens, même s'ils disent que vous êtes fous. Je me souviens que lorsque j'étais jeune et que j'ai fait mon premier 3000 mètres en compétition, les concurrentes étaient appelées à se présenter à l'appel du 3000 mètres, qui était la dernière épreuve de cette réunion d'athlétisme. Et je me souviens que je suis passé à côté d'un chronométreur qui a dit « Ah, voilà les fous !» Alors il y a l'autre qui a dit ben, « Pourquoi les fous ?» Et le premier a dit « Parce qu'il faut être fou pour vouloir en baver si longtemps. » Donc sur cette distance. Ah, vous savez, il faut se séparer des spectateurs. Et il faut persévérer dans la course chrétienne. Et puis, le chapitre 12, verset 3, nous invite maintenant, c'est notre sixième grand passage, à la persévérance dans l'opposition. Il est marqué, je reprends Darby qui dit, « Afin que vous ne soyez pas là, étant découragés dans vos âmes. » Parole vivante ajoute, « Ne vous laissez pas abattre par le découragement. » Et puis une autre traduction dit encore, « Afin de ne pas défaillir par lassitude de vos âmes. » Qu'est-ce qui souvent nous empêche de persévérer? C'est le découragement. La lassitude de nos âmes, comme dit cette traduction. Le diable essaye toujours de nous décourager. Il y a différents moyens pour cela. Mais dans ce verset, nous est donné le remède contre le découragement. Regardez à Jésus. Le considérer. Non pas considérer, je ne sais pas moi, seulement tel frère, telle sœur, telle église, tel pasteur. Tous peuvent nous décevoir un jour ou l'autre. Mais considérer Jésus. Penser à lui. Songer à lui. Le considérer attentivement. Comme le paralytique à la porte du temple, considérer Pierre et Jean, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Et nous savons comment il a obtenu la guérison. Vous recevrez le meilleur et la force de persévérer en regardant à Jésus. Amen. Enfin, notre dernier texte nous invite à persévérer dans l'amour fraternel, c'est le chapitre 13, au verset 1er. Et d'après ce passage, d'ailleurs, lorsque vous regardez un tout petit peu le contexte, jusqu'au verset 3, vous voyez que cet amour fraternel va se manifester. Donc d'une part, dans cette persévérance, il est question aussi d'hospitalité au verset 2, et puis il est question de sympathie, de manifestation d'amour pratique à l'égard des prisonniers, des maltraités. Vous voyez donc, cet amour fraternel, c'est quand même quelque chose de très pratique. Ça doit être ainsi, ça doit être pratique, l'amour fraternel. L'amour biblique, c'est plus des actes que de grands sentiments. Et soyons aussi de ceux qui encouragent les autres. Raconte l'histoire de ce jeune parlementaire à la Chambre des communes, c'était en Grande-Bretagne, et il faisait son premier discours devant ce public très impressionnant. Alors il était presque paralysé par la nervosité, ce qu'on appelle le trac. Mais peu à peu, au fur et à mesure de son discours, sa crainte s'en est allée, puis il a dit ce qu'il avait à dire, puis il s'est assis. Puis d'un seul coup, il s'est rendu compte rétrospectivement qu'il avait fait une erreur. Et voilà que sa nervosité revient en lui. Et juste au moment où son moral était au plus bas, on lui passe un petit morceau de papier avec seulement trois mots. « Vous y arriverez ». Ils étaient écrits par la main du plus grand homme d'État de ce moment. Et le parlementaire garda ce petit morceau de papier comme un trésor de souvenirs et un encouragement perpétuel. Vous savez, beaucoup aujourd'hui ont besoin d'encouragement dans la vie avec Dieu. Encouragement aussi, bien sûr, à lire, à prier et à agir. Tenons ferme, frères et sœurs. Nous y arriverons, vous y arriverez. Et Dieu vous bénira. Que Dieu nous soutienne et nous aide chacun à tenir bon et à persévérer avec son secours et par sa grâce. Voilà, mes frères et sœurs, mes amis, eh bien, nous arrivons à la fin de notre prédication. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu nous soutiens par ta parole. Merci parce que tu nous affermis, Seigneur. Tu nous fortifies effectivement dans la persévérance. Et en même temps, tu nous aides à y veiller avec action de grâce. Parce que c'est aussi cela qui va véritablement nourrir et affermir cette persévérance. Et nous te bénissons pour les bonnes promesses dont nous avons eu l'occasion déjà de voir des accomplissements. Nous te bénissons pour celles encore plus merveilleuses que tu places devant nous et que tu vas réaliser avec toute ta fidélité et toute ta vérité. Sois glorifié notre Dieu, c'est toi qui soutiens et fortifie ton peuple. Amen. Amen. Voilà mes amis, mes frères et sœurs, vous êtes certainement au courant de ce qui ressemble de plus en plus à une bonne nouvelle. C'est-à-dire la probabilité de reprise des réunions début décembre. On n'a pas encore de détails bien précis, on attend les précisions officielles pour des dates en vue de la réunion du mercredi, en vue du culte. Mais en tout cas, préparons-nous pour cela. Et puis je me permets de vous rappeler simplement qu'il y a aussi la prédication du vendredi soir pour l'évangélisation qui est toujours en ligne. Celle du dimanche matin pour le culte également. Et puis le mercredi soir, autant que ce sera nécessaire. Et puis, nos rendez-vous sur les WhatsApp de l'Église sont activés, je vous le rappelle aussi, le mercredi soir à 20h15 pour le passage des sujets de partage, pardon, des sujets de prière et d'action de grâce. Et puis aussi le dimanche matin pour le partage des sujets de louange et d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie dans la persévérance et l'action de grâce. Béni soit son nom. Amen.